En studio avec moi, Suzanne Trudeau, qui est éducatrice spécialisée à l'Institut Raymond Devoire, au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Et Marie-Ève Gagné, spécialiste en réadaptation de la déficience visuelle à l'Institut Nazareth et Louis Braille du CI3S de la Montérégie-Centre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, juin, c'est le mois de la sensibilisation à la surdicécité. Vous allez deviner ma question. Même si on peut comprendre... En étant attentif aux mots, j'aimerais bien que vous nous donniez votre définition. C'est quoi exactement la surdicécité?
Bien, c'est la combinaison entre une déficience auditive et visuelle. Donc, c'est sûr que les personnes n'ont pas accès sonorement et visuellement à leur environnement. Ça peut être la définition la plus simple, mais il y a des impacts beaucoup plus profonds que ça.
Et ça vient d'où ce mot-là? Est-ce que c'est vous qui l'avez inventé? Est-ce que c'est un mot valise? Est-ce que vous connaissez son origine?
C'est une excellente question.
Très
je
bonne.
Je ne vais pas vous piéger du
non,
tout.
Non, ben, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a eu beaucoup de questionnements et qu'encore maintenant, il y a beaucoup de questionnements sur le terme surdicécité chez les Américains, chez les Français. Dans le fond, les Français vont dire les personnes sourdes aveugles en un mot.
OK, sourde aveugle en un mot.
Ouais. Puis bon, un peu le même principe que deaf blind. Au Québec, on utilise encore surdicécité, mais il y a beaucoup de questionnements présentement.
Bon, alors c'est intéressant.
C'est intéressant comme question.
Et de quelle façon la surdicécité affecte les personnes qui en sont atteintes? Parce qu'elles sont en manque de... privées de deux sens, des sens qu'on considère importants, fondamentaux.
Ben, de plusieurs façons. Mm-hmm. Moi, je pense que la commune, la majeure, parce que nos usagers ont plein de profils, plein de niveaux d'audition et de vision qui diffèrent, mais la commune difficulté qu'ils ressentent, c'est au niveau des communications. Mm-hmm. C'est la difficulté numéro un, l'accès à l'information, évidemment, puis les déplacements. Parce que des fois, on peut se déplacer en étant en état de cécité, mais on va utiliser l'audition pour compenser. Là, si on n'a plus accès, les déplacements aussi deviennent vraiment problématiques.
Ce qui touche donc l'autonomie de la personne, c'est très, très, très important. Ils ne peuvent pas faire les choses comme tout le monde, mais heureusement, on est là pour les aider.
Oui.
C'est grâce à nous qu'ils peuvent avoir une meilleure vie un petit peu plus.
Et justement, parlons donc de ce programme conjoint en surdicécité. C'est pour ça qu'on vous a invité toutes les deux. Comment c'est né ce programme-là?
Bien, avant plutôt, on était deux centres séparés.
C'est Mme Trudeau qui parle.
Oui, voilà. On était deux centres séparés, Institut Nazareth Louis Braille et Institut Raymond Devoire.
Ouais.
On travaillait ensemble, mais dans deux établissements différents. Donc, les clients devaient aller à l'un pour ses problèmes auditifs et à l'autre pour ses problèmes visuels. L'équipe, on se parlait, mais pas autant. On se laissait des messages pouvoir travailler ensemble, mais ce qui faisait que les gens devaient aller chercher leur service de façon fragmentée.
Ouais, c'était pas l'idéal.
Non. Alors, on a pensé que mettre les deux programmes ensemble, ça fait que la personne, elle est vraiment répondue dans tous ses besoins spécifiques et uniques à elle.
Mm-hmm. Et
oui, j'ajouterais que l'autre avantage... tout ça, puis pourquoi ça a été fait, c'est qu'on travaille vraiment plus ensemble. Fait qu'on peut travailler, par exemple, une spécialiste en réadaptation visuelle comme moi, en même temps que l'audiologiste, avec l'usager en même temps. Fait qu'au lieu de travailler morceau par morceau, on est là en même temps, on regarde le même problème, le même besoin, et on agit sous les deux plans avec toute la spécificité que ça amène.
Le programme existe depuis combien d'années?
Depuis 2005 qu'on a un programme conjoint. Donc, okay, ça fait presque 20 ans.
Oui. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce programme-là? Qu'est-ce que vous offrez concrètement aux usagers, aux usagères?
Plein de choses.
Par exemple.
On pourra parler pendant deux jours, mais on va dans le web. Vas-y.
Ben, par exemple, c'est sûr que tout ce qui est service en audiologie, service en optométrie, fait qu'on va mesurer, puis après ça, on va pouvoir établir, évaluer, puis faire un plan d'action.
Oui, c'est vraiment des plans personnalisés.
Oui,
là.
Oui, exactement. Chaque personne a une vision, audition différente, besoins différents, plans individualisés différents, effectivement. Fait que ça permet de bien évaluer au départ, mais après ça, on a la chance d'avoir plein de professionnels. On a des psychologues, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, des spécialistes en orientation mobilité.
Audiologistes, ergo.
J'ai oublié quelqu'un, c'est sûr.
Oui, puis là, je ne veux pas oublier
personne. Mais il y a toute une équipe de spécialistes.
Une grosse équipe, on donne tous les services qu'ils pourraient avoir en visuel ou en auditif, mais ensemble.
Ah oui.
Puis je pense qu'on va même un peu plus loin, étant donné la double déficience, là.
Et souvent, ce sont des services qui ne sont pas connus parce que les gens pensent ben, il n'y a plus rien à faire parce qu'on sait que les deux sens qui ont accès à toute l'information visuelle, auditive dans notre société, c'est les yeux et les oreilles. Ce qui reste, ben, c'est le toucher. On ne peut pas faire grand-chose avec ça.
L'odorat et le goût.
Oui. Mais nous, on va leur apprendre à faire la même chose, mais différemment. Alors, c'est pour ça que les gens, ils pensent pas « Ah, oh, mais je peux pas faire ça comme ça avec mes yeux et mes oreilles. » Non, mais nous, on va vous montrer comment faire autrement. Il y a des limites, mais on va essayer de les minimiser le plus possible.
Oui. Comment on fait autrement?
Bien, avec les mains. Par exemple, on est habitué à lire un livre. On peut lire un livre sonorement avec des aides auditive, accessible et adaptée à la vision, à l'audition de la personne.
Quand on a l'audition, on a le sens de l'ouïe.
Oui, mais je vais vous dire que la majorité de notre clientèle n'est pas complètement sourde et complètement aveugle. Ça, c'est une minorité. Une bonne partie a un problème auditif et un visuel. Donc, il y a des restes visuels, restes auditifs qu'on peut maximiser dans nos interventions, dépendamment des gens, évidemment.
D'accord. Donc, quand ils arrivent chez vous et qu'ils participent à ce programme-là, ces personnes-là, est-ce que vous dites que ce sont des personnes sourdes et aveugles ou des personnes avec une déficience auditive et une déficience visuelle, étant donné qu'il y a un degré, il y a un spectre? Oui. Là.
Bien, on parle de personnes ayant une sourdicité, donc...
Oui.
On essaie de se maintenir parce que c'est sûr que ça peut être totalement aveugle, totalement cécité, mais il y a tous les spectres. Puis il y a les gens chez qui ça arrive très jeune, de la petite enfance. Puis il y a les gens aussi, qu'on dit la clientèle, où c'est une sourdicité acquise. Mais ça arrive beaucoup plus tard dans la vie. Des fois, eux nous connaissent moins aussi, parce qu'il y avait soit, des fois, c'est des personnes qui avaient déjà une sourdité complète ou partielle. Puis là, tout d'un coup, il va avoir une pathologie oculaire qui va se rajouter liée à l'âge ou à autre chose. Que là, oups, on va tomber en état de sourdicité. Les gens connaissent pas toujours notre programme, mais oui.
Est-ce que ce sont des personnes qui viennent de partout du Québec?
Nous, on s'occupe plus de l'Ouest du Québec. On est en sur-spécialisation, pardon, tout l'Ouest. Donc, c'est sûr que même on va souvent soutenir les intervenants de ces endroits-là parce qu'on ne peut pas se promener partout. Ça serait bien trop... on ferait plus de voitures que d'autres choses. Mais on va beaucoup les soutenir. Mais on va souvent faire Laval, Montréal, Montérégie. Ça, c'est nos endroits communs.
D'accord.
Pour le reste de l'Ouest, on est en soutien, dans le fond, aux équipes cliniques locales. Puis pour l'Est de la province, bien, il y a l'IRDPQ qui ont une équipe
Exactement.
Aussi.
Exactement. Et combien de personnes ont recours à votre programme conjoint en sourdicité?
On avait dit environ...
à peu près 300 par année,
oui,
hein, 300 si je ne me trompe pas, mais
environ.
Ouais, environ, ça bouge un petit peu à chaque année, mais à peu près, puis là, on parle par année, parce que les gens, leurs besoins, on peut travailler, là, ça va bien, ils vont recogner à notre porte quelques années plus tard, fait qu'il y a comme un roulement aussi là, dans les gens qu'on voit.
Parce qu'il faut dire aussi que la majorité de ces pathologies-là sont dégénératives, donc il va y avoir une baisse, il y a un plateau. Donc, on les aide, on les laisse aller pendant ce plateau-là. Il va y avoir une baisse auditive, baisse visuelle qui va avoir un impact aussi sur leur environnement et sur leur possibilité de faire les choses. Alors, ils vont revenir. Donc, c'est des clients qu'on revoit assez souvent, mais à cause que leur situation change.
Est-ce qu'il y a une grosse équipe qui travaille à ce programme-là?
On est une vingtaine, je pense.
Environ, en tout et partout.
Une bonne équipe.
Oh oui, une bonne équipe.
Alors, est-ce qu'il y a 10 personnes au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal et 10 personnes au CI3S de la Montérégie-Centre?
Là, il faudrait les calculer. Il y en a un petit,
on est un petit peu moins de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Fait que dans le fond, les spécialistes de l'Institut Nazareth, c'est vraiment les spécialistes en réadaptation visuelle, les spécialistes en orientation mobilité, optométristes, opticiens, éducateurs. Mais tout ce En fait, ça a été décidé comme ça, mais tout ce qui est plus psychosocial, bien, ils appartiennent à l'IRD. Mais de toute façon, les gens ont tout le programme, là, tous les services.
Et Suzanne, vous êtes une enfant d'un parent sourd?
Oui!
Alors, vous êtes une CODA, c'est-à-dire Child of Deaf Adult.
Yes!
Vous êtes capable de vous exprimer en langue des signes québécoise?
Très bien. C'est ma première langue maternelle, je dis. Ben, ma première langue maternelle, c'est le dit ensemble. Mais je pourrais pas dire si j'ai appris le français ou la langue des signes en premier. Je ne pourrais pas le
dire. Ah oui, ça s'est fait naturellement.
Exactement.
Et vous maîtrisez aussi la langue des signes québécoise tactile. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ça, ce sont pour des personnes sourdes qui ne peuvent pas voir, évidemment. Donc, les signes, c'est très visuel parce que les personnes sourdes sont visuelles. Alors, c'est des personnes qui vont mettre leurs mains sur mes mains. Et lorsque je vais signer, ils vont pouvoir configurer avec leurs mains le signe que je fais et pouvoir comprendre la conversation que je fais. C'est sûr que ça demande plus de temps parce que c'est dans l'espace, les signes. Alors, il faut que les mains soient bien placées. C'est un apprentissage autant pour la personne qui signe que pour la personne qui écoute les signes, si on peut dire ça comme ça.
Question peut-être innocente, là, mais je me disais, parce que dans la vie, il y a des gens qui parlent vite, 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 vite,
oui.
Puis il y en a qui sont plus lents. En langue des signes québécoise, est-ce que c'est la même chose?
La même chose.
Ah oui?
Oui. Il y en a qui signent vite, puis d'autres qui signent moins vite. Puis même, je dirais, un peu comme l'accent québécois, il y en a qui signent un peu plus lousse que d'autres, entre guillemets. Alors, c'est vraiment, chaque personne a son accent. Même dans les signes, ce que je trouve extraordinaire.
Et je disais que vous animiez quelque chose, Marie-Ève Gagné. Vous étiez animatrice. Qu'est-ce que vous faites exactement là, lien avec le programme dont on parle?
Oui, 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 oui. J'anime une communauté de pratique pour la sourdicité, étant donné qu'on a des expertises rares et que c'est un peu difficile dans le monde francophone de le partager. En fait, il y a les Américains qui ne travaillent pas comme nous. Avec nous, on a l'expertise ici au Québec, puis c'est dur d'échanger avec d'autres partenaires. Donc, la communauté de pratique en sourdicité sert à ça, sert à mettre en lien à l'international plein d'intervenants du milieu de la sourdicité. Donc, il y a plein de membres qui viennent de plein de pays, principalement francophones. On est en train d'ouvrir au milieu anglophone aussi. Mais c'est une façon de partager nos expertises, partager nos bons coups, partager nos questions, pouvoir avoir accès à un plus grand bassin d'intervenants avec des réalités différentes. Puis c'est quelque chose comme, vu qu'on est... C'est tout petit ici, étant donné la quantité de clients, bien, c'est vraiment un besoin, je pense. Puis on se rend compte que même à l'international, c'est un besoin pour eux, parce qu'on a beaucoup de « Ah, je viens d'entendre parler de vous, c'est donc intéressant, je veux participer à la conversation. »
Et si on veut participer à la conversation, est-ce que vous en offrez régulièrement de ce genre de conférences ou ateliers-là?
Bien, quand même, de plus en plus. C'est sûr que c'est vraiment quelque chose, cette communauté-là s'adresse vraiment aux professionnels du réseau qui ont des contacts avec les gens en sourdicité. Ça veut dire aussi que pour une audiologiste de Gaspé qui serait loin des services, pour peu importe quelqu'un qui travaille dans le milieu des déficiences visuelles ou auditives, mais qui n'aurait pas de service spécialisé dans leur coin, bien, ils sont invités aussi. Fait que les enseignants aussi, qui peuvent avoir des jeunes avec des sourdicités. En Europe, on a beaucoup d'enseignants aussi qui se sont joints à la communauté. Fait que oui, on a des activités, mais c'est vraiment pour les professionnels, par les professionnels.
Je comprends. 95 % des apprentissages réalisés par l'être humain sont faits grâce à la vision et à l'ouïe. Vous l'évoquiez tantôt, Suzanne. Alors, c'est quoi le processus à suivre pour qu'une personne qui a une déficience auditive et visuelle puisse apprendre, se sente connectée au monde, qu'elle puisse l'appréhender, le monde?
Oh, la question!
Prenez votre temps, on a du temps.
Bien, c'est sûr qu'en évaluant très bien, parce que c'est important d'évaluer les besoins de chacun, parce que nous, des fois, on va voir plein de besoins, mais c'est pas parce que nous, on les voit que ce sont des besoins de la personne.
Oui, faut pas se projeter aussi.
Non, non. Et des fois, ils sont pas prêts à faire les interventions parce qu'ils sont dans le deuil, sont dans...
Le déni.
Voilà, ouais. Exactement. Donc, c'est vraiment de respecter tout ça, mais c'est vraiment en les écoutant. Tout simplement, qu'est-ce que vous voulez? On va vous offrir des solutions, on va vous offrir des façons de faire, mais c'est sûr que les gens, il faut qu'ils soient... présent dans leur tête, parce que ce sont des apprentissages. Quand on n'entend pas bien et qu'on voit pas bien, s'investir dans un apprentissage, c'est très demandant parce qu'on n'a pas des repères visuels et auditifs pour se repérer, vraiment. Alors, c'est la grosse difficulté. Avoir accès à l'information, Mais de tout, du matin au soir, on utilise nos yeux et nos oreilles sans s'en rendre compte. Le réveil matin, se faire à déjeuner, se faire un café, tout ça, c'est très activité de la vie quotidienne. C'est ça qui est le plus marquant. Parce que les autres choses, des fois, les gens rendus à un certain âge aussi, ils veulent plus trop. Ils ont une sagesse que je dis à 90 ans, ils ont une sagesse de « je suis bien comme je suis, j'ai pas envie d'apprendre et je m'assume très bien comme ça ». Alors, c'est vraiment de respecter...
Oui, l'écoute et le respect.
Mm-hmm. Moi, j'ajouterais peut-être un petit élément. Je travaille moins avec la clientèle jeune enfance, mais dans l'équipe, on a des professionnels jeunes enfants. Et là, c'est un petit peu différent. Parce que c'est sûr que nous, on est formés, puis la philosophie est d'écouter les besoins, puis ce que les gens veulent faire. On est vraiment axé là-dessus. Quand c'est des petits-petits, bien là, ils ont déjà un problème auditif, un problème visuel. Fait que là, le rôle de l'équipe est un peu différent, dans le fond, parce qu'on peut pas nécessairement leur demander ce qu'ils veulent ou pas. Mais c'est sûr que le premier objectif, c'est de travailler les capacités auditives et visuelles pour qu'avec le temps, ils puissent mieux percevoir les choses, mieux identifier, pouvoir donner des réponses, peu importe le médium qu'ils vont avoir, mais vraiment là, de travailler ces aspects-là pour que ça se perfectionne avec le temps puis qu'il y ait de plus en plus accès à la communication.
Et il ne faut pas oublier aussi, parce que là, on parle des jeunes, on parle des plus âgés, mais entre les deux, les jeunes adultes, ils ont des projets de vie que dans la société, il y a tellement de préjugés. Une personne sourde, aveugle, elle ne peut pas être mère, voyons donc. Elle ne peut pas aller à l'école, c'est trop compliqué. Nous, on
les préjugés ou un manque de connaissances aussi. Hein?
Oui, les deux ensemble, c'est exactement. Lié, souvent. Oui, souvent, c'est lié ensemble. Ouais. Avoir plus de connaissances, ça fait baisser les préjugés, effectivement. Mais je connais beaucoup de nos clients, on leur a aidé à être maman. Même s'ils sont sourds, aveugles, à aller aux études, à être comme tout le monde, quoi. Parce que déjà, il y a des deuils à faire. Par exemple, un jeune adulte de 17-20 ans, avoir le permis de conduire, c'est probablement non. Donc, c'est un déni, c'est un deuil à faire, pas déni.
Ouais, ouais.
C'est un deuil à faire parce que c'est quand même, ça fait partie de la vie. Donc, nous, on les aide, quand c'est possible, évidemment, de réaliser leurs rêves, même s'ils ont deux handicaps.
Faites un travail de psychologue aussi en même temps, je trouve.
Bien, c'est sûr qu'on a des psychologues, des travailleurs sociaux, fait que ça, oui. Ça nous aide beaucoup, mais dans le quotidien, effectivement, c'est les intervenants. On est avec leurs gens au quotidien, avec leurs difficultés, fait qu'on n'endosse pas le titre, mais on est là pour les écouter puis les comprendre, puis à un moment donné, je pense qu'ils sentent aussi que c'est pas la première fois qu'on adresse ces problématiques-là, fait qu'on établit des relations de confiance puis de soutien.
Juste pour vous dire, lorsqu'on fait une évaluation des besoins, sincèrement, l'évaluation pourrait durer une demi-heure, là. Mais je peux rester deux heures.
Ah, oui.
Parce qu'on placote. Parce que souvent, on est la seule, pas tous, mais plus pour les gens âgés, on est peut-être la seule visite du mois. Donc, ils ont besoin de jaser. Et je pense que notre rôle, c'est aussi d'être là pour dire, OK, on est là pour vous aider. Mais on est humain aussi. On fait un travail humain, donc on les écoute. Et c'est accepté comme ça, malgré tout.
Et quand
malgré
c'est...
la performance ouais, de ouais. demander.
Quand c'est une vraie écoute, j'imagine que la personne qui est en face de vous a envie de s'ouvrir parce qu'elle se sent importante.
Oui, bien, ça arrive tellement souvent de se faire dire « Vous êtes la première personne qui comprend ce que je vis. »
Ah oui.
Fait que juste ça, prendre le temps, puis de faire comme « Bon, on part avec ça. » Puis on crée aussi une bonne relation,
lien,
un lien qui va nous permettre d'aller plus loin.
Tout à fait.
C'est super important, ouais.
Et même, il y en a même qui disent « Il était donc temps que vous soyez dans ma vie. Si j'avais su ça avant, je vous aurais appelé avant. » Effectivement.
Oui, c'est souvent comme ça, hein, quand on découvre quelque chose qui nous fait du bien. On
exactement.
Se dit « Ah, pourquoi je ne l'ai pas découvert avant? Pourquoi je ne suis pas allée avant? » Parce qu'il y en a peut-être qui ont des préjugés ou des craintes. Ils se disent « Je ne prendrai pas rendez-vous, je ne participerai pas à ce programme-là parce que je suis correcte comme ça. »
Et je ne veux pas déranger personne. Ça, c'est aussi une phrase qu'on entend très souvent.
Ah oui, donc il faut développer son estime de soi, sa confiance en soi.
Exact.
On a évoqué aussi la société qui a peut-être des préjugés. Est-ce que la société sait comment se comporter avec les personnes en déficience, qui ont des déficiences auditives et visuelles? Parce que je lisais qu'on estime que plus de 450 000 Canadiens et Canadiennes qui sont âgés de plus de 15 ans qui sont atteints de surdicité. Ça en fait du monde, ça, qui rencontre peut-être des préjugés au quotidien, là.
Bien, c'est un handicap invisible. Hein? C'est ça qui fait que, à part la canne blanche qui est un peu plus visible, mais sinon, une personne sourde aveugle qui a un reste visuel assez important pour pouvoir se déplacer sans canne blanche, ça existe, bien, il est comme vous et moi, mais en même temps, il n'entend pas bien. Donc, ils vont souvent passer pour des snobs parce que les gens, excusez-moi, monsieur, mais il n'entend pas. Alors, ils passent pour des gens qui se foutent un peu de tout le monde, alors que c'est vraiment pas ça.
Mm-hmm. Puis il y a aussi le phénomène de la canne blanche, la fameuse canne blanche qui souvent crée juste un malaise. On dirait que les gens, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation encore à faire, que ce soit en sourdité ou en déficience visuelle. Quand on voit quelqu'un avec une canne blanche, là, les gens sont « Ah, oh, j'y ouvre-tu la porte? J'y ouvre pas la porte. Ah, oh, j'y offre-tu de l'aide? J'y offre pas de l'aide. Ok, traverser la rue, je vais arrêter la voiture. » Fait que finalement, il y a des comportements pleins de bienveillance, mais qui sont peut-être pas adéquats. Mais ça, c'est une question d'éducation aussi, de société. Je pense que ça serait positif pour tout le monde, tu sais, que ça soit plus su, puis plus... c'est ça. Je pense que les gens trouvent ça particulier. Ils n'en voient pas beaucoup. Fait que personne ne sait comment réagir. Fait qu'il y aurait quelque chose à faire.
Il y a encore beaucoup d'éducation, de conscientisation, de sensibilisation. Mais c'est le mois de juin de la sensibilisation. C'est pas pour rien que ça a été mis sur pied. Et je lisais aussi que lundi, c'était cette semaine, le 3 juin, il y a eu une activité à l'hôpital Notre-Dame. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui!
On est tellement contents!
Oui!
Ben, en fait, à chaque année, là, c'est notre troisième édition. Affilié à Deafblind International, parce que ça, c'est quelque chose d'international, c'est pas juste nous à Montréal. Là,
je me rends compte que j'ai dit DIF tantôt, c'est DEF. C'est DEF, hein?
Ouais.
Oui, merci.
En fait, des gens de plein de pays qui participent. Puis c'est de faire du tricot urbain, en fait, graffiti en tricot urbain, une œuvre qui est faite par des personnes en sourdicité, par les intervenants, par les gens qui travaillent, peu importe, dans le réseau. Parce que en fait, l'idée en arrière, c'est que ben, chaque personne est unique. Chaque carré qui est fait qu'on relie ensemble est unique. C'est quelque chose qui est accessible à plusieurs personnes de notre clientèle. C'est un beau passe-temps. C'est accessible aussi tactilement. Après l'œuvre, les gens ils peuvent aller la consulter, là, façon de parler. Puis aussi, c'est une façon de faire parler de la sourdicité parce que vu que c'est international, ça prend de l'ampleur un peu sur les médias sociaux. Puis Montréal a fait ça, puis Dublin a fait ça. Puis donc, oui, puis les usagers aiment ça aussi, je pense.
Mais j'imagine. Ça a été un succès, oui.
Oui, parce que même cette année, on a eu une année un petit peu difficile. Fait qu'on avait pas, c'était pas notre priorité dans nos interventions. Et c'est une cliente, une usagère qui nous a téléphoné pour dire ben, « On aimerait ça, nous, le Cercle des aveugles, de faire des carrés. Est-ce que vous allez le faire cette année? » Et je tiens à remercier Carole Daigle. C'est grâce à elle si cette année, on a pu... faire cet événement-là aussi.
Oui,
là.
Avec le Cercle des aveugles aussi, là, ils ont travaillé vraiment fort. Madame Forg aussi. Mm-hmm, ça a été nos tricoteuses professionnelles de l'année. C'est grâce à elles, tout
Mais
ça.
Merci à ces dames. Est-ce qu'on peut voir ces œuvres-là?
Oui! C'est à l'hôpital Notre-Dame, dans le parc extérieur, sur la rue Sherbrooke. Donc, si vous passez sur la rue Sherbrooke...
Tout près d'ici, tout près de Canalem.
Et c'est à l'entrée du pavillon La Chapelle, pour être précise.
Oui, fait qu'on le voit là, sur Sherbrooke. Les arbres sont habillés, les lampadaires sont tout habillés, plein de couleurs.
Oui, ça doit être très beau.
Il y a des belles affiches aussi qui expliquent c'est quoi, avec des codes QR qui réfèrent à de l'enseignement, des renseignements et tout ça. Fait que c'est bien intéressant.
Alors, on appelle ça en anglais le yarn bombing.
Yeah. Oui.
Ouais.
Je préfère tricot urbain, c'est plus facile à dire.
Tricot urbain, et c'est du bon français. Et on va pouvoir donc aller voir ces œuvres-là jusqu'à la fin de juin, pendant tout le mois de la sensibilisation.
C'est pour 3 semaines. Okay. Fait que ça a été inauguré hier officiellement. Donc, pour les 3 prochaines semaines, ça va être disponible là. Et ça devrait revenir l'an prochain au mois de juin.
Ah, bien, c'est une excellente idée, belle initiative. Et je voulais aussi, en terminant, vous demander, Suzanne Trudeau et Marie-Ève Gagné, c'est quoi les prérequis si on veut accéder à vos services, là? Comment on fait?
Bien, il y a les guichets d'accès au CIE du Centre-Sud. Peut-être que je te laisserais peut-être plus...
Il y a les deux guichets. Okay, oui, les deux guichets. Dans le fond, on peut faire une demande à l'IRD ou à l'INLB. Ça tombe dans nos services de toute façon. On a besoin, c'est sûr qu'on va demander à tout le monde. N'importe qui peut faire la demande. La personne peut appeler directement, la famille, le médecin, l'optométriste, l'audio. peu importe d'où ça vient. C'est sûr qu'on va toujours demander, par contre, un audiogramme pour voir la déficience auditive et un rapport optométrique. Ça peut être l'ophtalmo ou tout ça pour avoir un peu le niveau de déficience auditive. La personne va être admise à nos services et à ce moment-là, on va tout réévaluer puis on va recommencer du début.
Alors, vous avez parlé d'acronymes, là. Oui. Vous avez évoqué des acronymes pour parler de l'Institut Raymond Devoir, j'imagine bien?
IRD Raymond Devoir, oui, vous avez...
Alors, ça a été un grand plaisir de vous accueillir, Suzanne Trudeau, éducatrice spécialisée à l'Institut Raymond Devoir au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, et Marie-Ève Gagné, spécialiste en réadaptation de la déficience visuelle à l'Institut Nazareth et Louis Braille du CI3S. Est-ce que vous dites le CI3S ou le CIUS?
Le CIUS.
Le CIUS, allons-y avec le CIUS de la Montérégie Centre, qui venait nous parler du mois de la sensibilisation à la surdicécité. On en sait beaucoup plus grâce à vous et bravo pour tout ce que vous faites. À une prochaine, j'espère.
Certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.